Bonjour et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senali et pour cette saison 3, attachez vos ceintures. Je vous embarque dans ma DeLorean pour un retour vers le futur. En parallèle des nouveaux invités, je redonne le micro aux Amcamgrammeurs pour qu'ils me racontent l'évolution de leur métier depuis le passage sur le podcast. Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti ! Salut Arthur, comment tu vas ?
Bah ça va très bien toi, hein, la forme ?
Bah écoute, ouais, ça va, il fait beau, il y a du soleil, donc ça donne la patate, on va dire.
Bah écoute, très bien, vu la période, ça nous fait tous du bien.
Exact. Bah en tout cas, merci de revenir au micro de Amcamgram, c'est trop chouette, sachant qu'on avait enregistré ensemble un débat sur l'épisode numéro 51, et là, on va approcher les 90.
Exactement, c'est une belle croissance de start-up. Et du coup, je suis ravi de revenir, donc merci de me réinviter. Déjà une fois, c'était un honneur, mais alors deux fois, c'est même plus que ça. Donc merci beaucoup, je suis très, très heureux d'être avec toi aujourd'hui.
Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ton évolution de poste, puisque lorsqu'on avait le plaisir d'enregistrer ensemble, toi, tu étais Key Account Manager chez Doctrine, et aujourd'hui, en fin de compte, tu es passé responsable pôle direction juridique, fiscale et sociale.
Exactement, rien que ça. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que je te rassure, c'est que le rôle de Key Account Manager est toujours au cœur de ce rôle dans la direction juridique. Mais en fait, chez Doctrine, on a deux typologies de clients. Une dont nous avions parlé lors du podcast précédent, à savoir les avocats. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on adresse aussi très bien notre produit à une autre typologie de juristes que sont finalement les directions juridiques et après un peu plus les directions métiers, fiscales, sociales. Et donc, fort logiquement, j'avais envie de passer sur ce nouveau segment et de créer de toutes pièces, qui était un peu l'étape d'après dans mon évolution de carrière. Donc, je reste finalement Key Account Manager sur une partie du segment des directions juridiques. Mais après, il y a toute la partie intéressante des nouvelles missions qu'on va aborder ensemble aujourd'hui.
Ah bah oui, j'y compte bien. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te soumettre à ma nouvelle question rituelle qui Oula. Est quel est Arthur ton petit déjeuner idéal ?
Ok, alors là, sans transition. Alors mon petit déjeuner idéal. Alors déjà, c'est un petit déjeuner au calme parce que j'ai l'immense bonheur d'avoir un petit garçon d'un an et demi, bientôt deux, et c'est vrai que les petits déjeuners maintenant c'est plus comme avant, donc avant le petit déjeuner j'ai déjà plein de choses à faire, donc pour moi c'est juste un café parce que je ne petit déjeune presque pas par vieille habitude, donc c'est juste un café. Mais alors avant il faut que je fasse le biberon, que je m'occupe du pain, que je mette un peu de beurre, un peu de confiture, qu'il puisse jouer avec la cuillère, bref il y a tout un rituel mais qui ne m'appartient plus vraiment.
La joie d'être parent.
Exactement. Bon, je vais pas râler, c'est quand même super sympa.
Oui, bien sûr. Bon, alors justement, maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Tout d'abord, Arthur, alors comment tu te sens dans ce nouveau rôle ?
Bah écoute, je me sens très heureux. Je suis hyper hyper content, hyper épanoui.
Et je parle pas du rôle de parent.
Non, bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais quoique, c'est un peu lié. Je voulais me challenger un peu, recommencer quelque chose, réavancer sur des nouveaux sujets. Et donc, ça m'a paru super bien de le faire. Et en effet, je me sens très bien dans ce nouveau rôle, mais très conscient aussi de la tâche qui arrive. Et donc, du coup, il va falloir dépoter. Voilà. Donc, il y a un sentiment de joie immense de recommencer quelque chose de nouveau parce que c'est toujours très agréable. Et j'adore ça. Mais il y a aussi un sentiment de, on va dire, de gravité de par la nouvelle fonction, une nouvelle chose à faire et surtout les résultats à obtenir assez rapidement.
Alors, est-ce que tu peux rentrer dans le détail de comment ça s'est fait, cette évolution de poste ?
Oui, bon, en fait, bon, ça s'est fait assez naturellement. Comme je te disais un peu, voilà, il y a une nouvelle cible chez Doctrine, direction juridique, sociale, fiscale, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on avait accumulé, on va dire dans le bon sens du terme, pas mal de clients. Moi j'étais juriste de formation, hein, donc on se rendait compte qu'il fallait qu'on leur adresse différemment notre produit. Les sales ont su très bien le faire très vite. Et en fait, nous, dans l'équipe Customer Success, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas parler à une direction juridique de la même manière qu'un cabinet d'avocats. Et qu'en fait, ils avaient beau avoir des points communs, ils étaient quand même finalement extrêmement différents, partenaires sur plein de points, mais aussi concurrents sur d'autres. Et donc, c'était logique d'aller là-dessus. Moi j'ai toujours eu une envie un peu de créer, de segmenter, d'essayer de nouvelles choses, et en fait c'était le terrain de jeu idéal pour moi, donc quand le poste s'est ouvert avec les ambitions de doctrine là-dessus d'en faire aussi un vrai relais de croissance, bah, j'ai pas réfléchi trop longtemps avant de foncer, de passer les process internes.
Ok, d'accord. Bon, bah, très carré. Et en tout cas, tu savais ce que tu voulais. Et il y a eu, on va dire, la bonne opportunité au bon moment avec toi en face.
Ouais, c'est ça. Et puis surtout, enfin, il y a un côté aussi très agréable. Alors, je vais faire un peu de promotion pour la boîte, mais après tout, c'est pas gênant. Mais parce que j'y crois vraiment, c'est très agréable aussi de changer de poste. La période fait que c'est pas facile parce que dans d'autres boîtes, quand tu veux changer d'entreprise, il faut se remettre une période d'essai. Il y a une incertitude, il y a un petit peu une crise, etc. Donc c'est toujours un moment un peu challengeant. Et en fait, de le faire en interne, je trouvais qu'il y avait un côté agréable de sécurité et surtout une vraie ambition parce que c'était vraiment un nouveau poste. Et le fait de passer des process internes, en fait, ça légitime tout ça. C'est que c'est pas juste un changement. Tu recommences, tu te refais challenger par la direction, tu rééchanges avec eux. Voilà, c'était vraiment en effet le bon moment, le bon timing. Et puis, je pense que c'est un mariage heureux entre Doctrine et moi, parce qu'en fait, c'était eux comme pour moi, c'était intéressant de se poser sur ce nouveau segment aujourd'hui.
Et juste par curiosité, c'était quoi le process interne?
Et bien alors en fait, nous, on est assez sensible au fait chez Doctrine de dire que même si tu es dans la boîte, il faut que tu passes le même process que quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc on te retire certaines étapes, hein, quand même, faut pas déconner, notamment tout ce qui est potentiellement le skill test sur des compétences techniques, commerciales que finalement j'avais déjà identifiées, donc on n'allait pas me refaire faire un skill test. Mais j'ai fait ce qu'on appelle une roadmap pour présenter mon ambition sur ce poste-là, ce qu'on pouvait y faire. Donc ça, j'ai présenté ça au Head of Sales, enfin au VP Sales même d'ailleurs, et au Head of CSM. Et après, j'ai échangé avec notre COO, notre secrétaire général, pour voir un peu quelle était l'ambition, ce qu'on pouvait faire, les motivations, est-ce qu'on était bien aligné là-dessus. Et enfin, dernier point avec le directeur général, pour vraiment rechallenger tout ça, voir si c'était une envie de changement soudain et donc du coup pas très bien réfléchi, ou s'il y avait vraiment une vraie ambition. Et ça permet de valider ça, là encore, hein, c'est important pour eux comme pour nous. Et donc, process sérieux que j'ai passé juste après Noël.
Bonne année alors.
Ouais, c'était cool, ouais.
Mais tu vois, pour construire la roadmap, est-ce que tu avais déjà des indices sur les ambitions de l'entreprise ou tu partais vraiment d'une création pure?
Un peu les deux, mon capitaine, pour une raison très simple, c'est que oui, alors l'ambition de la boîte sur ce segment-là, je l'avais en tête parce que il l'avait déjà déployé sur la partie, on va dire, un peu plus account exécutive, un peu plus commercial. Donc je savais qu'il y avait une ambition sur ce segment. Et en revanche, après, c'est ce qu'on m'a demandé dans la roadmap, c'est justement de créer, bah voilà, on part d'une page blanche, donc on y va, on essaye, on challenge les choses, on propose des idées. On fera sans doute pas tout ce que j'ai en tête, et heureusement, parce que je viens aussi me nourrir des personnes qui arrivent, des différentes ambitions des uns des autres, des bonnes idées, des choses à changer, des urgences. Donc en fait, il y a tout ce côté-là qui fait que voilà, j'avais la conscience de l'ambition, et après, c'était à moi un peu de la mettre en musique pour voir ce que ça allait donner sur une roadmap. Et en fait, je t'avoue que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire parce que il faut aller mettre les mains dans le cambouis, dans les chiffres, dans les différentes typologies de comptes, quels sont nos clients, quels seront nos clients demain. Et en fait, c'est assez agréable justement de mettre les mains dans ce cambouis pour comprendre un peu ce qui va se passer et justement mettre l'ambition au bon endroit.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu te places en stratège tout en sachant que tu vas toi-même appliquer ta propre stratégie opérationnellement.
Ouais, c'est ça. Puis après, en fait, c'est toujours agréable d'avoir des très grandes idées. Ça permet de se projeter à long terme. Après, dans nos sociétés un peu start-up, le long terme, c'est quelque chose de très compliqué à imaginer parce que peut-être que dans un an, ça sera très très différent. Et je suis persuadé que ce sera très différent. Et j'ai envie de te dire presque que je le souhaite parce que ça veut dire qu'on est capable d'évoluer. Et en fait, c'est ça qui est très bien, c'est de se donner un cadre et à la fois de bouger. La ligne de conduite, nous, on la connaît chez Doctrine. On veut ouvrir la justice le maximum possible en rendant les décisions accessibles à tous les justiciables, etc. Ça, c'est notre ambition à très 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 long terme et à très grande échelle. Et après, très concrètement, en effet, il faut mettre des choses en place, modifier, changer. Et ça, c'est partie de l'ADN de la boîte. Donc, évidemment, dans la roadmap que je présentais, c'était pas des choses gravées dans le marbre, qui étaient une sorte de prérequis pour avoir le job. C'était des idées, des ambitions. Et après, on met en musique tout ça et on essaye d'y arriver, et en adaptant tout le temps, parce qu'on s'adapte tous les jours, hein.
Clairement. Bah, hyper clair en tout cas d'avoir tes premières impressions. Là, ce que je te propose pour les 20 prochaines minutes, c'est que tu me parles un petit peu du avant-après, Bon, sans refaire le match, bien sûr, mais tu vois, en me décrivant tes nouvelles missions, tes nouveaux challenges, en rentrant de manière très concrète. Et puis aussi, ce que je vais trouver intéressant, c'est que bah, je pense que tu as eu le temps quand même de prendre un peu de recul par rapport à ton poste de CAM auprès des avocats. J'aimerais bien que tu me résumes à la fin tes principaux apprentissages et ce que je dois retenir.
Ça marche. Allons, on est parti.
Alors, donc, comme je disais, ouais, sans forcément refaire le match, mais est-ce que tu peux me résumer ton précédent poste de Key Account Manager chez Doctrine?
Ouais, en gros, c'était d'aider les avocats dans l'implémentation de la solution au quotidien, d'augmenter les usages et, dans la mesure du possible, de ne pas perdre les contrats et d'augmenter, si possible aussi, ces contrats auprès de nos gros clients. Voilà, très simplement, d'une
Très
manière très
clair.
simple.
Et donc là, est-ce que tout ce que tu viens de dire, on le transpose sur un autre persona ou
Alors,
est-ce qu'il y a des éléments en plus?
globalement, oui. En fait, c'est la même idée, c'est de se dire, voilà, donc c'est vrai que le rôle de CAM, il est toujours extrêmement présent, justement, de maximiser les contrats, de maximiser l'usage, etc. Là où c'est transposable, c'est en pratique, mais en théorie, il y a une approche qui est très différente déjà. Donc, intellectuellement, il faut changer un peu les choses. C'est-à-dire que l'usage de notre solution par les avocats et par les directions juridiques au sens large, il n'est pas le même. Donc, il faut complètement revoir la procédure d'onboarding, complètement revoir les éléments qu'on leur pousse au quotidien. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une direction juridique, en fait, quand elle a un problème trop poussé, trop pénible, trop compliqué, trop chronophage, elle va le déléguer en fait à un cabinet d'avocats. Donc en fait, eux, c'est des réponses très opérationnelles. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile ou moins facile, hein, c'est juste que c'est très opérationnel. Et donc, il y a toute cette vision en fait de modifier les choses pour que les usages soient utilisés par tout le monde. Et les directions juridiques, c'est des gens qui font un petit peu moins de recherche avec notre outil, et donc il faut leur créer là encore de nouveaux usages. Donc c'est ça que j'aime bien en fait aujourd'hui avec les directions juridiques, c'est que il faut créer un petit peu plus d'adhésion. L'adhésion de Doctrine au sein des cabinets d'avocats, elle était évidente et on était presque attendu par les avocats sur le produit. Quand les directions juridiques, il faut leur faire comprendre que c'est un des nouveaux usages, une nouvelle manière de travailler. Et donc ça, il y a un peu plus d'accompagnement et ça, je trouve ça assez sympa.
Ce que je comprends en filigrane, c'est que finalement, les directions juridiques vont être peut-être plus demandeuses que les
Ouais.
avocats.
Ouais, ils le sont plus. Ils le sont plus parce que déjà, ils ont un peu plus de temps à allouer à ce genre de, on va dire, de nouveautés. C'est quelque chose qui leur parle un peu plus. C'est quelque chose qu'ils aiment un peu plus et surtout quelque chose qui fait un peu plus partie de leur quotidien. Parce que quand tu es finalement directeur juridique ou dans une direction juridique d'un grand groupe, tu es au courant qu'il y a des services marketing qui travaillent avec des entreprises nouvelles, avec des nouvelles manières de bosser, la réorganisation du travail. Hein, faut pas oublier qu'il y a eu depuis un an le Covid et que toutes ces directions juridiques se sont mises au télétravail du jour au lendemain. Et donc, quand on leur parle maintenant de mots un petit peu pseudo à la mode, mais de digitalisation, de réflexion sur les nouveaux outils, etc., ben, en fait, aujourd'hui, ça leur parle beaucoup, beaucoup plus. Donc ça, c'est très agréable. Il y a beaucoup de répondants.
Et sur ton nouveau rôle, est-ce que vous êtes plusieurs personnes à l'exercer? Là, je voulais que tu m'en parles.
Ouais, aujourd'hui, on est
En
trois.
équipe, voilà.
On est trois aujourd'hui, donc ça c'est chouette. C'est-à-dire que déjà je ne suis pas arrivé tout seul avec une ambition individuelle. Il y avait vraiment cet esprit collectif. Donc ça c'est très très agréable. Et du coup, en effet, on a une équipe. On doit du coup créer de nouveaux usages. Donc moi, il y a toute cette partie-là aussi d'onboarding des nouveaux arrivants, donc de donner un peu les bonnes pratiques, de suivre un peu plus les rendez-vous avec eux, de ne pas être tout seul sur mes rendez-vous uniquement, mais d'aller accompagner aussi d'autres personnes. Donc ça, c'est un nouveau rôle en plus que j'ai et finalement que j'aime bien parce que je le cherchais aussi, hein, ce rôle un peu plus de, on va dire, d'accompagnement des équipes. Mais du coup, c'est aussi un job dans le job. Tu vois, il faut que je m'occupe entre guillemets de mon parc et également que je sois disponible pour les autres et surtout être capable d'apporter les bonnes réponses aux équipes très rapidement parce que c'est ce qu'on demande à quelqu'un comme moi aujourd'hui, d'être capable de tout de suite résoudre le problème ou en tout cas de lever un peu les freins et de libérer les énergies.
Quand tu dis vous êtes trois, vous êtes au même niveau ou toi tu chapeautes certaines personnes?
Bon, aujourd'hui, on est dans l'optique de même niveau parce qu'en fait, on a une culture du management assez, on va dire, horizontale. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément un besoin aujourd'hui de management pur sur ces postes-là. Ça ne sert à rien de trop, trop segmenter parce qu'en fait, on ne sait pas ce que demain sera ce service-là. Je pense qu'il va, et j'en suis persuadé, qu'il va considérablement grossir. Donc, il faudra peut-être repenser le management. Donc, le risque de trop segmenter tout de suite, c'est de créer des freins aux évolutions. Donc là, on est sur un même niveau. Après, moi, j'ai un parcours un peu plus senior aujourd'hui et une connaissance un peu plus métier. Donc forcément, j'accompagne un peu plus. Mais non, non, il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous.
Et comment vous faites pour vous segmenter les clients entre vous?
Alors, ça, c'est un grand sujet qu'on a eu, qu'on s'est posé assez vite.
Vous avez combien de clients? Enfin, c'est vous qui les avez chassés ou ils étaient déjà là?
Non, on les a récupérés. Nous, on récupère les clients signés. Nous, on ne chasse pas de clients. On récupère des clients signés par les acomptes exécutives. Et nous, on essaie on va dire, de les garder avec nous et d'amplifier les contrats. On a pris la même typologie de compte que les avocats. Donc, on a pris par taille, en fait, de direction juridique. Donc, par exemple, on a pris les petites directions juridiques, c'est moins de 5 personnes. On a fait le segment 5 à 30 de mémoire. Et un peu plus de 30, où là on en déduit que c'est quand même des grosses directions juridiques, donc c'est un segment un peu plus avec du coup des messages très différents aujourd'hui. Voilà.
Et tes KPI, ça va être quoi?
Ben alors en fait, on aurait très bien pu, je pense à ça aussi, segmenter par typologie d'exercice, le bâtiment, l'énergie, la banque, l'assurance, etc. Mais en fait, ça c'est plus compliqué parce qu'il faut faire comment dire, un service CSM et CAM extrêmement spécialisé, ce qui n'est pas forcément facile. Bah nous, les KPI, en fait, ils sont très simples. Ils vont être déjà sur l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, on veut absolument que les directions juridiques augmentent l'usage de l'outil. Une solution SaaS, hein, plus elle est utilisée, moins on a envie de s'en séparer. Généralement, tu peux l'affirmer comme ça, c'est souvent pas idiot. Tout le monde le sait, mais ça fait du bien de le répéter. Et après, il y a un aspect très bête, évidemment, c'est de faire grossir l'usage. Quand on a équipé une direction juridique avec 2-3 juristes sur les 10, bah, il faut essayer d'aller équiper les 7 autres et réfléchir avec eux, pourquoi on les équipe, comment, etc. Donc c'est vraiment ces deux KPI, l'usage et après l'adhésion qui monte, et donc normalement l'acte d'achat qui est censé être plus important l'année d'après.
Et en quoi le fait d'avoir déjà exercé ce métier, en tout cas, tu parlais de ta position plutôt senior, te sert aujourd'hui, puisque finalement c'est un nouveau pôle qui s'est créé. Donc est-ce que c'est d'ailleurs les deux collègues que tu as, est-ce qu'ils viennent de l'interne ou est-ce qu'ils viennent de l'externe? Parce que
Alors, c'est
j'imagine que
deux
vu que
collègues
c'est un gros
extérieurs.
enjeu, tu n'as pas forcément le temps de former tout le monde, quoi.
Exactement. Alors, on a fait le choix pour l'instant de prendre deux personnes extérieures pour venir bosser avec moi parce que ça met aussi un peu de sang neuf et tu peux pas faire que non plus de la promotion interne. Il faut aussi ouvrir pour pas du coup rester entre soi. C'est hyper important. Donc il y avait cette logique-là. Bah, en fait, l'ancien job que j'avais avant, vraiment qui a compte pur, ce qui est agréable, c'est que je le pratique toujours aujourd'hui, donc ça c'est super. Mais surtout, j'arrive à l'appliquer avec les mêmes règles que ce que j'ai pu tester avec les cabinets d'avocats, donc la même rigueur opérationnelle, le même niveau de préparation des rendez-vous. Et en fait, ça marche sur tous les comptes, peu importe la taille des comptes. Et en fait, je me rends compte de quelque chose de très important, c'est qu'en fait, il faut traiter les clients de la même manière, peu importe la taille de la structure, arriver avec la même rigueur. Et en fait, ce qui n'est pas facile, parce que forcément, sur une direction juridique avec 100 juriste, on a envie d'être extrêmement préparé, etc. Et sur un compte de 5-6 personnes, on a une fausse impression de se dire que c'est plus facile, etc. Ce qui est faux. Il faut arriver avec le même niveau de focus, le même niveau de commitment, et c'est grâce à ça qu'on y arrive. Donc aujourd'hui, cette espèce de rigueur un peu mathématique dans la manière de traiter les choses, sur du key account, ça m'a énormément servi. Et en fait, aujourd'hui, je le duplique, mais dès on va dire, le small business, en fait, ça pose aucun problème, et au contraire, ça aide à gagner en rigueur et être encore plus efficace.
Ouais, mais je te rejoins complètement là-dessus et j'allais te poser la question dans la partie Rex, tu vois, une idée toute faite du métier de CAM que tu souhaites déconstruire. Mais je te rejoins à 100%, c'est qu'il faut pas avoir d'a priori et j'ai même envie de dire que, tu vois, parce que moi, par exemple, je m'occupe d'un segment start-up aussi, donc tu dis, ils sont moins d'employés, donc ça va aller plus vite. Mais d'un côté, ils ont tellement de casquettes et ils ont tellement l'œil sur tout
En fait, c'est ça.
qu'ils sont vraiment au taquet, quoi.
En fait, c'est ça. Moi, ce que je déconstruirais comme modèle de qui a compte, en fait, c'est là où il y a peut-être un petit biais de par le nom. C'est que le côté qui, on y voit toujours, en effet, les très grands comptes, les très grands deals, les très grandes ambitions, etc. Ce qui est tout à fait vrai. Et c'est d'ailleurs très agréable. Mais finalement, cette logique qu'on a pour le qui, si on arrive à la transposer sur tous les segments, sur tous les comptes, avec bien sûr des process un petit peu différents, hein. On peut pas travailler de la même manière sur une direction juridique pour nous de 5 personnes et de 100 personnes. Ce serait idiot, ce serait un coup à se brûler les ailes. Mais en revanche, la même rigueur, le même côté, le même suivi, en fait que derrière, tu mets les mêmes ambitions et donc tu peux faire des très 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 beaux, très belles choses avec des ju directions juridiques un peu plus petites, mais pour autant que tu as considérées comme étant des très grosses structures. Et nous, ce qui est très agréable chez Doctrine avec les directions juridiques, c'est qu'en fait, il y a des très très gros groupes qui ont des petites directions juridiques parce qu'en fait, ils ont assez peu de contentieux ou assez peu de problèmes de droit, ou alors ils le sous-traitent beaucoup à des cabinets d'avocats. Et en fait, on a des directions juridiques de très grands groupes, mais qui sont pratiquement des small chez nous, alors qu'il ne faut pas les considérer comme tels parce que c'est des grands groupes. Donc c'est ça qui est marrant. Il faut vraiment avoir une bipolarité parfois sur ce qu'est un qui a compte quand on aborde ce genre de structure.
Carrément, carrément. Bah, écoute, on y vient à la partie donc retour d'expérience à la lumière du recul que tu as.
Ouais.
Première question, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait autrement lorsque tu étais qui compte auprès des avocats?
Eh bien, c'est ce que j'ai un peu trouvé en allant à la direction juridique, c'est peut-être plus amplifier l'accompagnement. Peut-être que j'ai eu aussi un peu un biais de par mes anciens jobs quand j'étais stagiaire en cabinet d'avocat, où j'estimais être tout le temps sous l'eau et tout le temps débordé, donc pas le temps d'aller faire des formations avec des personnes, d'éditeurs, etc. Et en fait, j'ai eu, à mon avis, ce biais aussi par rapport au cabinet, de me dire, il faut pas que je passe trop de temps avec l'accompagnement parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et l'envie. Et en fait, je suis parti un peu de ce postulat, et peut-être qu'avec une approche un peu différente, peut-être un peu différente aussi sur l'approche qu'on pouvait leur apporter, j'aurais peut-être fait un peu plus d'accompagnement sur certains aspects, notamment technique du produit, hein, pour leur présenter plus de choses. Et là, je me rends compte qu'en direction juridique, on peut vraiment, entre guillemets, essorer le produit en long, en large et en travers, et qu'en fait, ce qu'on vend aujourd'hui, on peut vraiment créer des usages nouveaux, aller encore plus loin. Et donc, c'est ça que j'aurais modifié, parce que je le mets en place aujourd'hui, et je me rends compte qu'on peut toujours aller plus loin dans notre produit, et ça, c'est quand même un sentiment génial.
Et ça fait écho à ce qu'on disait lors du précédent podcast qu'on avait fait ensemble sur push versus pull, où tu m'expliquais que, enfin de ton point de vue en tout cas, que là tu es un petit peu en train de remettre en question qu'effectivement les avocats étaient sous l'eau et que tu allais te limiter vraiment au strict minimum avec eux dans leur intérêt présumé.
C'est ça, il y avait un peu ce côté-là de se dire, en fait, c'est une profession qu'on ne peut pas non plus tout le temps déranger, etc. Et en fait, je pense que c'est aussi une question de manière, une question d'aborder les choses. Et c'est là où c'est toujours important d'avoir cette vision-là, là encore, de déconstruire un modèle. Mais on a toujours une tendance de dire mon compte quand on utilise un compte. Et en fait, ce n'est pas à soi. Il y a cette logique de non-possession. Et justement, le fait peut-être de mettre d'autres personnes, de faire changer les postes, de faire changer les contacts, etc., c'est une bonne chose pour le client notamment. Parce qu'il va aussi avoir d'autres philosophies. Et je sais que Charlotte, qui m'a, on va dire, un peu remplacé sur la partie grand compte cabinet d'avocat, a une approche un peu différente, un peu plus orientée produit. Et en fait, c'est aussi très malin et ça va faire beaucoup de bien aux avocats. Donc c'est pour ça que je suis très content qu'elle ait repris ce poste-là, parce que je suis sûr qu'elle va amener quelque chose de très nouveau.
Ouais, complètement. Et même, je trouve, de manière plus large, ça me fait penser à un enseignement que j'avais entendu dans un autre podcast qui disait, en fait, arrêtez de penser à la place de vos clients. Juste si vous avez une question,
Exactement.
posez-leur la question. Demandez-leur au lieu de, ah oui, mais j'ai fait ça parce que je pensais que.
C'est ça. Faut pas penser pour son client, faut mettre en place les choses. Mais c'est vrai que il y a aussi le quotidien qui est pas facile, c'est qu'on essaye d'anticiper un peu les choses. Et l'écueil de l'anticipation, c'est en effet de penser à la place.
C'est ça. Et si on devait le traduire en termes de qualité ou peut-être de soft skills, si on veut le dire plus largement?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut, il faut pas se mettre de. Enfin, c'est là, je lui dis un peu une banalité, mais pour le coup, je le pense vraiment. Je pense qu'il faut vraiment pas se mettre de barrière psychologique quand on aborde un compte, n'importe quelle notion, un client, un contact client, pas s'appesantir sur le. Lui, il est sympa. Pas d'éléments subjectifs en fait, qui paradoxalement rassure ou inquiète la personne qui va gérer le compte et en fait qui est très biaisée. Parce que peut-être que moi je vais trouver quelqu'un de charmant alors que quelqu'un va le trouver hautement désagréable et inversement quand on appelle quelqu'un pour la première fois, faut pas non plus, enfin on peut très mal tomber et donc du coup ce moment-là sera pas un bon moment et donc on va voilà pas anticiper trop en effet la supposée qualité d'un compte ou pas. Il faut rester en fait sur des critères assez objectifs et c'est pas forcément facile mais du coup en effet d'être un peu mathématique dans l'approche parfois permet de nous sortir des faux semblants subjectifs qui nous font un peu peur et en fait qu'il faut très vite déconstruire mais qui peuvent avoir un peu la peau dure.
Et puis, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure concernant la digitalisation, qui était peut-être un concept un peu nouveau pour ces directions juridiques, se dire, bon, bah, ok, c'est nouveau, mais pour autant, c'est bon, ils vont réussir à intégrer l'info et à maîtriser l'outil.
Mais bien sûr, en fait, on n'a pas un outil qui est compliqué, on a un outil qui est très complexe dans sa construction, mais qui en utilisation est d'une simplicité déconcertante. Et en fait, là tout à l'heure, je faisais un rendez-vous avec un directeur juridique d'une entité qui fait ce qu'on appelle de la protection juridique. Donc c'est ce que tu peux appeler grâce à ton assurance quand tu as eu un dégât des eaux ou un sujet. Et en fait, il traite des milliers de dossiers, mais justement, il a toujours cette envie de donner des réponses extrêmement précises, extrêmement détaillées. En fait, justement, il fallait lui montrer tout l'outil, toute la complexité de l'outil, et même parfois le noyer un peu sous l'info, pour qu'il puisse savoir ce qu'il allait utiliser, pas utiliser. Donc, pas présumer là encore de son usage. Et maintenant, j'ai vraiment retiré cet élément-là de mes démonstrations et de ma formation éventuelle que je peux faire à ces équipes.
Ouais, non, mais je pense que c'est un enseignement qu'on peut tous appliquer à soi-même à son échelle, de toute façon.
Exactement.
Alors, maintenant, Arthur, c'est la minute yoga. La minute souffle un grand coup, ferme les yeux. Et
D'accord.
si tu devais imager ce changement de rôle, ce serait quoi?
Alors, je suis désolé, je suis pas un grand maître yoga. Je crois que j'en ai jamais fait, donc peut-être que je le suis sans le savoir, ou peut-être que je ne le suis pas du tout. Je suis plutôt pour la deuxième option, parce que je suis plutôt tennis. Non, je pense que en simple métaphore, mais en gros, je pense qu'avant, j'étais un peu plus la tête dans le guidon, dans la descente. À prendre le chemin le plus rapide, ce qui est bien d'aller vite, mais parfois, il faut pas hésiter à justement lever un peu les yeux, regarder au loin, et en fait prendre non pas forcément le chemin le plus rapide, mais le meilleur chemin. Et en fait, le meilleur chemin, il peut être parfois un peu plus long, mais au final, il sera mieux. Donc, ne pas toujours vouloir privilégier la vitesse d'exécution, la vitesse de résultat, parce que parfois, on arrive à des résultats qui sont très bien, mais moins bien que si on avait pris un chemin un peu plus long, mais un peu plus intelligent, mieux pensé, etc. Donc le côté aussi sélectif de cette approche est de se dire, voilà, je réfléchis, j'analyse, et après, j'y vais. Un peu moins la tête dans le guidon.
Ok, bon bah, hyper intéressant cette métaphore cyclique.
Ouais, exactement, c'est ça, on va être sur
C'est
on approche du Tour de France, voilà.
ça. Autre question, est-ce que pour toi il existe une suite logique au métier de Key Account Manager? Et si oui, quelle serait-elle?
Ben alors, on peut vraiment tout faire. En fait, c'est toujours une réponse un peu hybride, mais moi, j'ai plutôt envie d'aller accompagner des équipes, de faire de l'onboarding et à plus ou moins moyen terme, de me détacher de ce côté un peu plus opérationnel pour justement plus aider les gens à step up sur leur métier, etc. Donc, ça, c'est une vision un peu plus de management. Mais ça peut très bien être aussi de repartir CAM sur des plus gros comptes. Ça peut être de repartir CAM sur d'autres segments très nouveaux où on découvre complètement. Donc, je pense qu'on peut vraiment être très 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 transverse et il faut garder ce rôle extrêmement transverse aussi bien avec des missions marketing pour ce que j'ai pas mal fait un peu plus produit aussi chez certains et vraiment garder ce côté hybride pour être capable de parler au bon niveau d'interlocuteur et je pense qu'on peut tout faire après ça ou même complètement changer de poste. Il y en a certains qui peuvent le faire aussi mais je pense que on peut aussi aller vers des métiers très commerciaux parce que certains aussi ont une approche extrêmement business du métier de key account manager.
C'est vrai. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a une équipe de account executive chez vous qui s'est créée spécialement sur les directions juridiques.
Ouais, exactement. Tout à fait. Tout à fait. En fait, à une époque, c'était géré sur un segment commun, donc avocat et direction juridique. Et en fait, bah, là encore, hein, mais faut se rendre compte dans le quotidien, ça paraît évident, mais faut l'observer, que c'est pas la même manière d'adresser les choses. C'est pas les mêmes modèles économiques. C'est pas les, enfin, quasiment. C'est pas les mêmes décisions de signature de budget, etc. C'est pas tout à fait pareil. Et donc, en fait, bah, c'était Camille à l'époque qui a vraiment lancé, lui, en matière d'account exec, ce modèle justement bah, de direction juridique et de voir un peu les premiers retours. Et en fait, ça fait que progresser parce que le marché répond bien aussi.
Carrément. Je ferme cette parenthèse. Un conseil que tu pourrais donner à un key account manager qui souhaite évoluer?
Bah, ça va être un peu. C'est pas redondant avec ce que je viens de dire, mais un petit peu dans l'esprit parce que. Mais vraiment, je pense qu'il faut se forcer à prendre de la hauteur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, on est entraîné un peu par les multiples tâches qui peuvent arriver, La formation, l'upsell, le cross-sell, le suivi, l'anti-churn avec des notions qui sont souvent très liées, très complémentaires, etc. Et en fait, pas perdre de vue qu'un client qui utilise bien la solution, qui en est content, qui même d'ailleurs en parle en interne pour éventuellement multiplier les usages, finira par prendre plus d'accès chez nous, ou alors un contrat avec plus de fonctionnalités pour d'autres, enfin, pour d'autres SaaS, etc. Mais sera de plus en plus heureux, épanoui. Et donc, un client content, c'est un client qui ne churne pas. Moi, je suis un grand fan d'Apple, je suis d'une originalité zéro là-dessus. Mais bah, j'ai commencé par une paire d'écouteurs. Après, je me souviens, j'ai eu un MP3, des gros trucs qu'on mettait dans l'ordinateur là qui marchait très mal. Après, j'ai eu un iPhone, après, j'ai eu un Mac. Enfin, vous voyez, j'ai comme ça progressé avec le produit parce que je suis fan et en fait, je ne ferai que consommer tout le temps de cette marque parce que j'en suis extrêmement satisfait et que le produit répond à mes besoins. Et si j'avais un account manager de chez Apple qui me s'occuperait de moi, bah en fait c'est ça, cette capacité de hauteur de vue, de satisfaction produit. Et en fait, quand on est très satisfait, les budgets, on les trouve normalement toujours.
Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que je vais aussi me l'appliquer dès demain parce que des fois, quand ça marche hyper bien avec un client, tu te dis, punaise, non, mais je vais quand même pas pousser le bouchon, quoi, je suis
Bon, en
un
fait,
peu dégoûtée pour
il
lui.
faut. Non, mais en fait, il faut. Et là encore, on ne peut pas préjuger d'un acte d'achat. Alors, il y a quelqu'un à qui je ne me suis pas très bien entendu, qui n'est pas un client, qui était un fournisseur chez nous, mais qui nous a dit en formation, on n'est pas là pour se faire aimer de ses clients. Alors, j'étais fondamentalement pas d'accord avec ça, mais en fait, avec le recul maintenant, je comprends un peu ce qu'il voulait dire. C'est en fait, on n'est pas là uniquement pour ça. Le lien d'approche n'est pas que sur la bonne entente. On est là aussi pour bien équiper un client, lui donner les bons points de vue, et là encore, ne pas présumer de ce qu'il veut. Et parfois, lui proposer un contrat plus gros, plus important avec plus de dépenses, en fait, il va peut-être être extrêmement heureux de faire cette dépense.
C'est clairement la leçon du jour là.
Ouais,
Clairement la leçon. Bah, merci beaucoup Arthur et je termine bien entendu par ma question rituelle qui est quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux selon toi ton nouveau quotidien et pourquoi?
alors, cette question est difficile. Je t'avoue que j'ai un peu du mal à la préparer. J'ai pas trouvé vraiment de réponse à cette question, pourtant j'ai un peu cherché. En fait, j'ai trouvé un vieux film que j'aime bien, qui s'appelle Volte-Face, où il y a Travolta et Nicolas Cage, quand même pas le chef-d'œuvre d'Hollywood, mais il est pas mal. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette notion de Volte-Face, c'est que je suis revenu en fait à une situation initiale à laquelle je pensais qu'elle n'était pas bonne, tu vois, on avait parlé ensemble, je pense qu'il fallait assez peu contacter ses clients, être très impactant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, je me rends compte que parfois, faire un peu de qualité, faire un peu de suivi, de pas toujours avoir des liens business, mais aussi d'accompagnement, finalement, c'est pas forcément idiot. Je pense que c'est parce que aussi ma cible de client a un petit peu changé, il y a une vision un petit peu différente aujourd'hui du droit, mais du coup, j'ai pris volte-face. Parce que j'ai fait un peu finalement un retour sur ce que je pensais et je pense qu'il faut pas hésiter à se remettre en cause. C'est pas enfin, voilà, des principes sont jamais gravés dans le marbre et ça fait pas de mal parfois de se dire qu'on évolue, on change et au contraire c'est ce qui fait que notre job est plutôt passionnant.
Ouais, bah merci pour ces enseignements et bravo d'avoir réussi à prendre du recul sur tes actions et ouais à te remettre en question. Donc
Bah, écoute, merci à toi, merci de ton invitation, je suis ravi. Et puis, merci de podcast que tu animes parce que c'est toujours très agréable à écouter et très sympa à suivre.
bon, bah trop chouette. À bientôt. Bonne
À
journée.
bientôt, Darina. Salut. Ciao.